Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence. Mon invité est Éléonore Carrois, députée de la seconde circonscription des Français établis hors de France qui regroupe l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Éléonore Carrois, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Il y a quelques jours, et vous étiez aux côtés du président Emmanuel Macron en visite d'État au Brésil. En quelques mots, quel bilan feriez-vous de ces rencontres officielles ?
C'était une excellente visite d'État. Elle était très attendue, car cela fait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de visite d'État en Amérique latine et dans les Caraïbes, et au Brésil en particulier. Elle était très attendue de la part de la communauté française établie sur place, qui est la deuxième plus grande communauté dans ma circonscription. Très attendue de la part des Brésiliens, qui sont très largement francophiles et souvent tournés vers la France. Très attendue aussi des Français qui regardent vers l'Amérique latine. Donc c'était à la hauteur des attentes.
Vous l'avez mentionné, en 7 ans de mandat, c'est la première fois que le chef d'État français se rend officiellement en Amérique latine. Les relations entre la France et cette partie du continent avaient besoin d'être échauffées, c'est ça ?
Absolument, absolument. Alors, il y avait eu énormément de rencontres dans des sommets multilatéraux, mais c'était la première fois que le président Macron se rendait au Brésil et c'était vraiment très important parce qu'en plus, on a un agenda commun, un agenda amazonien, un agenda pour la transition écologique.
Justement, sur ces aspects positifs, on viendra peut-être sur les questionnements par la suite, mais sur l'agenda stratégique environnemental, les points clés de cette visite.
Alors, un partenariat tout d'abord pour l'Amazonie. C'était à la fois symbolique, mais extrêmement important. La première rencontre s'est faite à Belém do Pará, qui est le lieu où s'est tenue la conférence amazonienne l'an dernier et où se tiendra la COP qui aura lieu au Brésil en 2025. Et non seulement c'était à Belém, mais c'était sur une île à côté de Belém, en plein cœur de l'Amazonie, c'est-à-dire au début de cette forêt. Et dans la délégation, il y avait des parlementaires et des élus guyanais de la région de la frontière avec le Brésil, pour marquer aussi cet attachement à notre frontière, notre plus grande frontière terrestre, et notre engagement pour préserver l'Amazonie, et pas seulement pour la préserver, pour la protéger, mais aussi pour s'assurer que les populations qui vivent sur ce territoire puissent vivre dignement, puissent aussi avoir accès à des services et à un développement. Donc il y avait vraiment un côté symbolique et un côté extrêmement, très concret, très réel, avec une annonce aussi sur un milliard de fonds, en tout cas de levée de fonds pour la protection de l'Amazonie, un engagement de part et d'autre.
On voit donc là des perspectives communes. Il reste quand même quelques divergences entre le Brésil et la France, notamment sur l'Ukraine. Le président Lula refuse de prendre parti contre la Russie. Les deux chefs d'État ont, semble-t-il, pu tout de même aborder le sujet. Mais vous, Éléonore Carrois, qui étiez aux côtés de ces deux présidents, est-ce que vous avez perçu une inflexion de la part de Lula en faveur de l'Ukraine ou pas du tout ?
Le sujet, comme vous venez de le dire, a été abordé, et ce qui était vraiment très positif dans cette visite d'État, c'est que tous les sujets, y compris les sujets sur lesquels il y a des divergences, ont été abordés sans tabou. Et comme l'a rappelé le président du Sénat brésilien, que nous avons également rencontré lors de la séquence à Brasilia, cette visite a permis de voir quelles étaient nos divergences et de montrer que nous les respections, mais en même temps de mettre l'accent sur nos convergences qui sont beaucoup plus nombreuses que nos points de divergence. Alors oui, sur l'Ukraine, il y a des positions qui sont légèrement divergentes. Le Brésil l'a rappelé, le président Lula l'a rappelé lors de la visite. Ils ont condamné l'invasion russe, mais ils ont un rapport, un positionnement qui est différent par rapport à la Russie de Vladimir Poutine.
Je voudrais revenir aussi sur un point de divergence qui est Mercosur, je ne peux pas ne pas aborder le sujet. Le président Macron, lors de sa visite d'État, s'adressant aux Brésiliens, l'a dit, je cite, « Le texte tel qu'il est aujourd'hui négocié est un très mauvais accord pour vous, s'adressant aux Brésiliens, et pour nous. » Ça fait plus de 25 ans que ces négociations ont commencé. Quelle a été la réaction côté brésilien par rapport aux propos d'Emmanuel Macron, et surtout dans une perspective, là, mettons-nous un petit peu sur l'avenir, comment on va s'en sortir ? Ce serait quoi la solution possible de cette discussion ?
Là encore, sur ce sujet qui était quand même un sujet compliqué, complexe, en tout cas, il n'y a pas eu de tabou et il y a eu un dialogue qui s'est fait. C'était pas du tout l'éléphant dans la pièce, c'est quelque chose qui a été abordé à plusieurs reprises, y compris avec la presse. Alors sur cette question-là, le président Macron a rappelé la position de la France, qui en fait est inchangé depuis 2019, qui est de dire cet accord tel qu'il a été négocié, signé, ne convient pas à un certain nombre de pays européens, mais en particulier à la France, parce qu'il ne comporte pas de clause miroir, il ne comporte pas de garantie environnementale et il n'assure pas à nos agriculteurs en France, mais pas seulement à nos agriculteurs d'ailleurs, qu'il y a une forme de réciprocité des normes environnementales. Et ça, c'est une question qui est extrêmement importante pour la France, pas seulement sur le plan, disons, de la protection du monde agricole français, mais aussi et surtout sur la question de nos normes, de l'impact qu'elles peuvent avoir et du fait qu'elles ne soient pas contournées par des traités commerciaux qui ne les intègrent pas, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs d'autres traités de libre-échange dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps. Donc c'est en ce sens que quelque part la position du président Macron était une position qui était attendue, connu de la part des Brésiliens, certes en divergence encore une fois parce que eux étaient plutôt prêts à signer l'accord tel qu'il est et font valoir d'autres arguments selon lesquels bah, finalement les normes que eux appliquent sont certes différentes mais parfois également vertueuses et c'est un argument tout à fait entendable. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette visite, c'est que si l'accord de l'Union européenne Mercosur en l'état actuel ne convient pas à la France, et le président l'a dit très clairement, le président Macron, l'idée n'est absolument pas de fermer la porte à la poursuite des négociations commerciales, de coopération, de partenariat avec le Brésil.
Le président Macron a aussi rencontré la communauté française au Brésil. Justement, à cette occasion, une délégation d'élus, un conseiller des Français de l'étranger de l'opposition, je crois que beaucoup d'élus sont étiquetés à gauche, ont remis une lettre au président à ce moment-là. Est-ce que cette démarche vous a surpris ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est important que les élus de toutes les tendances politiques puissent s'exprimer. J'en ai d'ailleurs retrouvé un certain nombre lors de la rencontre avec la communauté française de São Paulo, où il y avait près d'un millier de Français qui s'étaient réunis dans le lycée Pasteur. J'ai pu échanger avec eux et avec le président de la République. Et je pense que c'est au contraire très important que la démocratie locale dans notre circonscription puisse vivre, que différents points de vue puissent être exprimés, que des demandes puissent être faites.
Et est-ce que vous comprenez les revendications présentées par ces élus, notamment la crainte liée aux coupes budgétaires sur un service public à l'étranger qui perdrait en qualité, sur le montant des bourses scolaires qui serait aussi en discussion, le coût de la santé aussi a été évoqué. Est-ce que voilà, ce paquet de revendications, vous les entendez, vous les comprenez ?
Ce que j'entends, c'est qu'il est impératif de ne jamais baisser la garde sur les questions qui touchent aux Français de l'étranger, parce que nous sommes loin, parce que nous sommes parfois pas au centre des préoccupations de nos concitoyens, et c'est normal, je veux dire, on n'est pas forcément présent, on a des préoccupations qui sont différentes, on a un accès qui est différent, on n'a pas les mêmes services publics parce que par définition, on habite en dehors du territoire national, mais pour autant, il faut vraiment que nos droits, que nos prérogatives, mais surtout que notre lien, notre rattachement à la France puisse être préservé. Alors, il y a eu effectivement un certain nombre de coupes budgétaires, parce que comme vous le savez, il y a la question du déficit, il y a des choix qui doivent être faits, des arbitrages qui sont faits. Et moi, en tant qu'élu de la majorité, de même que les élus de l'opposition, sommes extrêmement attentifs à où ces coupes sont faites, quels impacts elles vont avoir. Alors, justement, sur la question des programme des Français de l'étranger. Moi, j'ai immédiatement demandé un entretien au ministre des Français de l'étranger et au ministre des Affaires étrangères qui m'ont assuré que ce budget-là concernait des fonds qui n'impactaient pas les Français de l'étranger, avec un détail de ce que cela représentait, notamment en termes d'ETP, donc d'équivalent temps plein, dans nos consulats, parce que vous savez que c'est extrêmement important et que certains de nos consulats, notamment en Amérique latine et dans les Caraïbes, sont aujourd'hui sous-dotés et qu'il faut au contraire les renforcer. Mais dans ce sens-là, moi j'ai eu des assurances, des garanties, et je pense que c'est tout à fait normal et que c'est le rôle d'un élu que de contrôler l'action du gouvernement et de s'assurer que les individus que nous représentons soient bien représentés et bien traités dans le contexte qui est évidemment un contexte dans lequel il faut faire attention à la dépense publique.
Pour conclure, Éléonore Carroi, une fois cette visite d'État passée, est-ce que c'est à vous finalement maintenant d'assurer le service après-vente ?
Absolument. Alors le service après-vente, je ne sais pas, mais moi je me rends très, très fréquemment dans les 33 pays de notre magnifique circonscription. Vous voyez, je suis rentrée il y a quelques jours de ce déplacement présidentiel et je repars déjà samedi pour la Bolivie, qui est un pays où il n'y a pas beaucoup de visites présidentielles ni ministérielles, mais qui est un pays avec lequel on a aussi un attachement très fort. Mais voilà, j'essaie d'être le plus présente possible sur le terrain parce que je pense que c'est important. C'est important pour les Français qui vivent à plus de 10 000 kilomètres. C'est important de savoir qu'ils ont une élue sur laquelle ils peuvent compter et qu'ils peuvent rencontrer régulièrement. Donc, j'organise à chaque fois des permanences parlementaires, des rencontres avec la communauté française. Et lorsque je ne suis pas là, tous les premiers samedis du mois, et je me permets de le rappeler ici sur ce podcast, tous les premiers samedis du mois à 16h, heure de Paris, j'organise un Zoom qui est ouvert vraiment à toutes et à tous, dans lequel on revient sur l'actualité législative et sur ce que nous allons examiner ou ce dont nous allons débattre à l'Assemblée nationale le mois prochain. Donc, tout le monde est évidemment invité à y participer.
Merci, Éléonore Carroix.
Merci à vous et à très bientôt.
En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement sur lesfrançais.fr.